Cascodeur Podcast, épisode 275. Interview sur le darwinisme numérique avec Didier Girard, partie 3. Enregistré le 17 février 2022.
Ça y est, cette troisième et dernière partie nous emmène sur les chemins des choix organisationnels que ces natifs du numérique à succès emploient. Et puis nous fermerons le sujet, ou en tout cas le mettrons en pause, puisque c'est un sujet évidemment en mouvance et en continu. Voilà, bonne écoute.
Et puis après, il y a cette notion, et qui pour moi est aussi très importante, c'est sur le modèle organisationnel en termes d'efficacité. On n'entend pas beaucoup parler en France. Moi, je fais une vraie différence entre ce que je fais au quotidien et c'est-à-dire que quelque part, mon manager ne doit pas être la personne avec qui je travaille au quotidien, mon chef de projet. Et je fais une vraie différence entre ces deux notions-là. C'est-à-dire que pour moi, un manager, ça doit plutôt être un coach de carrière. Et il n'est pas présent, il ne doit pas s'occuper de ce que j'ai à réaliser, et ma carrière ne doit pas dépendre de mon chef de projet, parce que quelque part je suis pas très efficace. Et puis quelque part, si je veux bouger, c'est pas forcément dans l'intérêt du chef de projet que je bouge. Et si c'est mon manager, soit très honnête, il est content de perdre son meilleur élément pour qu'il fasse sa carrière, mais c'est rarement le cas. Et donc du coup, il va avoir tendance à travailler ses intérêts propres plutôt que la carrière des gens avec qui il travaille. Et donc, je pense qu'il faut arriver à dissocier ça. Et il y a pour ça des frameworks qui existent, type la sociocratie ou l'holacratie, qui vont travailler justement sur la notion de gouvernance. Il y a des gens qui... Et du coup, on décolle ça de la hiérarchie. Mais il faut pas... Il y a des gens qui ont dit, on sort du modèle hiérarchique et on passe dans un modèle sociocratique ou holacratique. Et je pense que ces deux modèles doivent coexister. Il y a le modèle qui est là pour... qui est un modèle à impact sur le fonctionnement de l'entreprise, qui est le modèle sociocratique ou holacratique, qui est là pour gérer le fonctionnement de l'entreprise et la création de la valeur de l'entreprise. Et après, il y a le modèle managérial, qui est aussi présent et qui est là pour gérer la carrière des gens qui sont dans l'entreprise. Et il faut arriver, et moi je pense, c'est ce qu'on essaye de faire, mettre en œuvre chez Sphere, de décorréler ces deux axes-là.
Intéressant ça. J'avais entendu effectivement toute la partie holocratie, etc., etc. C'est un autre mindset, quoi.
Ouais. Et l'un n'exclut pas l'autre. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans l'holacratie, tu as des cercles, tu as des links, et il faut pas que tu dises je plaque mon modèle hiérarchique sur mon modèle holacratique.
C'est quoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est confus pour les gens là. Donc, tu peux faire des petites définitions.
L'holacratie? Hiérarchique, c'est en gros, tu as un manager qui est un manager, qui est un manager, qui est un manager, et tu arrives au président, et donc ça, c'est le système hiérarchique classique. Et en gros, avec qui tu vas discuter pour ta REM, ou je veux une formation, je sais pas quoi, tu vas discuter avec ton manager. Et donc, on est bien sur la notion de carrière, quelque part. C'est ça, cette structure hiérarchique, elle est bien liée à la carrière. Et après, opérationnellement, tu es sur un projet, tu dois faire quelque chose. Et donc, tu as un chef de projet. Donc, tu vas réaliser quelque chose, c'est un chef de projet. Est-ce que du coup, ton chef de projet est aussi ton manager? Et c'est là où, quelque part, tu dis, est-ce que c'est une bonne chose? On peut comprendre que c'est pas forcément une bonne chose et qu'il peut y avoir des tensions, en tout cas, sur le chef de projet, parce qu'il a quelque part deux objectifs qui sont à titre personnel. Il doit avoir une équipe efficace, donc avoir les meilleurs ingénieurs, mais quelque part, du coup, peut-être que ces meilleurs ingénieurs, du point de vue de leur carrière, ce serait intéressant qu'ils bougent à un moment donné. Et donc, lui, il a cette tension qu'il doit gérer. Et donc, soit tu dis, je laisse tous ces chefs de projet gérer cette tension, et t'es à peu près sûr que ça peut marcher, mais ça aussi ne peut pas marcher. Et donc structurellement, tu peux dire je vais dissocier ces deux choses-là de manière à ce que ce soit plus les chefs de projet qui portent l'attention. Et donc tu dis je vais organiser mon entreprise, elle a des objectifs à réaliser. Donc par exemple chez Sphere, on a le processus de recrutement, ça s'appelle les playoffs. Et donc la personne qui est responsable d'organiser le processus de recrutement n'est pas forcément un manager au sens du suivi hiérarchique et de la carrière. Et donc l'holacratie, ça permet de définir des cercles de responsabilité. Voilà. Et donc ces cercles de responsabilité, on leur donne une mission à réaliser et ils sont autonomes dans cette mission. Donc tu définis en gros les inputs et les outputs attendus, et après l'équipe s'organise pour que cette feuille de mission soit réalisée.
Et donc les managers définissent qui est dans ces cercles-là et à quel pourcentage d'énergie.
Non, après, enfin, juste par l'idolacratie, la sociocratie, c'est une heure, je pense.
On fera un autre épisode parce que bah, ça peut être intéressant.
C'est intéressant, et je suis pas forcément le meilleur spécialiste dessus, donc, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir, c'est il y a plein de documentation qui existe. Si les gens connaissent pas, ben déjà chercher holacratie, sociocratie, et il y aura déjà plein de choses pour essayer de comprendre un petit peu ce nouvel espace.
Ok. En fait, ta question là, parce que t'as tech et business dont on a parlé
c'est que si on continue sur qu'est-ce que c'est que pour réussir, ben ces boîtes-là, il y a une vraie association de dire c'est que historiquement la tech était un centre de coût, voilà, et souvent historiquement la DSI était raccrochée au DAF.
Oui.
Ça explique bien ce que ça veut dire. Dans beaucoup de boîtes, le DSI est raccroché au DAF, et donc quelque part ben, un DSI, c'était un acheteur de prestations informatiques, que ce soit du hardware, du software ou du people. Et voilà, donc c'était ça. Et, voilà. Et donc là, ça a un peu changé. C'est-à-dire que la manière de fonctionner et la manière dont tu dois considérer la tech, c'est plus un centre de coût. Et dans ces entreprises, dans ces tech compagnies, en fait, la technologie est un générateur de business, et le business va générer de la technologie. En fait, tout ça, c'est imbriqué. Ça fonctionne ensemble. Et donc une des premières choses à faire, et ça c'est quelque chose qui est compliqué en France et qui l'est moins en tout cas dans les boîtes de la Silicon Valley, c'est que il faut absolument que des techs soient dans les cercles de décision. Voilà. Et donc c'est pour devenir une tech compagnie, si quelque part à un moment donné, ben il y a pas de tech dans les cercles de décision, il y a peu de chances que tu réussisses. Exemple, le Comex décide, bah ben, c'est super, l'année prochaine on double notre chiffre d'affaires. Pourquoi ? Ben parce que le marché est là, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas le chercher. Puis en même temps, mais si t'as pas consulté tes techs en disant ouais mais attendez, nous on n'a pas les data centers, on n'est pas équipé, etc. Ben ton ambition parce qu'il y a le marché, il y a peu de chances qu'elle soit réalisée parce que de toute façon, ben, du point de vue tech, t'es pas au point, t'es pas encore là en fait. Et donc ben il faut que ton business soit bien aligné avec ta capacité à réaliser. Et donc ça, ben si t'as pas de tech au board qui soit capable d'arbitrer et d'aider dans ses prises de décision, il y a peu de chances que ça marche. Et toi, typiquement, tu dis, ben, à l'échelle de ces très grosses boîtes, on va sortir un nouveau service qui va être disponible auprès d'un milliard de personnes. Ben ouais, mais il faut des data centers pour ça. Et donc, quelque part, ben, si t'as pas prévu des data centers en amont, si la tech te dit, ben, on n'est pas aligné, on n'a pas, ça ne marchera pas. Donc, même si t'as le potentiel business, mais que t'as pas réfléchi en amont, est-ce que j'ai bien la capacité technologique pour réaliser, ça marchera pas. Et donc c'est, même si tu dis je développe un nouveau service, bah, il faut des ingénieurs, il faut qu'ils soient efficaces, qu'ils arrivent à fonctionner ensemble, c'est pas simplement je prends des gens, je les mets ensemble et ça va marcher tout de suite, ça va dérouler. C'est aussi un des beaux exemples là-dedans que je cite, alors je cite Doctolib, mais peut-être que l'histoire que je raconte, elle est très métaphorique, peut-être qu'elle est pas réelle, mais je vais quand même la raconter. C'est, à un moment donné, il y a besoin de, on sait qu'on va devoir vacciner tous les Français. Okay. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, bah, ok, nous, on va aller choper ce marché-là. Bah, quelque part, si la tech est pas alignée avec cette idée business, qui est d'ailleurs pas forcément très business, en l'occurrence, mais, bah, il faut qu'on sorte un produit et ce produit, on doit l'avoir dans 3 semaines. Et donc, il faut absolument que la tech, elle soit partante dans cette décision et qu'elle se dise c'est faisable, c'est pas faisable. Parce qu'on se lance sur ce marché-là et si tu livres au bout de 6 mois parce que t'étais pas prêt, tes ingénieurs étaient pas prêts, t'étais pas capable de les libérer, t'étais pas capable de mettre en prod, ton équipe est pas assez agile parce que, ben, pour livrer en 3 semaines, et ben, il faut avoir l'habitude d'être en CI/CD. Donc, si t'as pas ça, c'est pas, je développe le logiciel, au bout de 3 semaines, je le mets en prod et j'ouvre. C'est pas ça. C'est que t'as itéré plein de fois avant. Donc, si ton équipe, tout ça n'est pas opérationnel, tu peux pas y aller. Et donc, si t'as pas de tech qui, au moment où cette idée émerge, sont capables de t'accompagner dans la faisabilité ou pas de ton problème, t'auras du mal, en fait, à y aller.
Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel, c'est qu'il y a aussi cette vision où toutes les entreprises sont des boîtes de tech. qui font banquier, assurance.
Juste pour revenir, je crois que pour le coup, c'est un peu fantasy. Enfin, c'est une vision différente de, je crois, enfin de des échanges qu'on avait eu avec les gens de Doctor Who qui étaient venus au DevOps d'avant. Je pense que les gens leaders étaient avaient une expérience tech. Ils savaient comment fonctionnaient leurs équipes. Donc ils ont pris le pari. Mais après derrière, c'est pas genre on sait que dans 3 semaines en fait ils savaient rien du tout.
Ah oui, parce que le PO c'était le ministre de la santé qui disait demain on vaccine quoi.
Macron, ouais. En tout cas c'est métaphorique. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est plus dans l'idée en tout cas. C'est aussi pour ça que de toute façon.
Et ils y sont arrivés parce que c'est une boîte tech.
Mais je vais aller plus loin que toi, c'est-à-dire que les modèles sur lesquels les exemples sur lesquels t'as construit ce modèle, il y en a beaucoup, en fait, le leader, il est ingénieur, en fait. Alors que le patron, il a su, en tout cas.
Mais il associe ces deux.
Il a su comment ça marche concrètement, c'est-à-dire qu'il n'a pas du genre, non, mais là, tu vois, c'est pas genre, bon, ben, demain, on fait x2 en chiffre d'affaires. En fait, c'est, la vision, c'est ça. Déjà, donc, il y a une vision plutôt qu'un objectif commercial, on a une grosse différence, déjà. Et ensuite, il s'appuie, voilà, sur ses compétences, de techniques, en fait. C'est plus qu'un aidant, tu vois, plus qu'un, tu vois, ton DSI au COMEX. C'est limite le CEO et
ouais. Mais toi, moi, justement, c'est là où je veux. Tu vois, c'est donc il y a ces exemples-là et c'est vrai qu'il y a des boîtes dans la Silicon Valley dans lesquelles le CEO est un pur tech. Il y a aussi des boîtes où c'est pas le cas. Mais quoi qu'il arrive, le CTO ou parce que CTO, CIO, enfin, c'est pas trop, mais en tout cas, il y a à la fois du biz et du tech dans le COMEX. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Et après, c'est peut-être que c'est incarné par une personne qui peut être biz tech ou biz tech, enfin, soit biz, soit tech, soit les deux. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans ce cercle de décision, il y a forcément des techs. Et ce qu'il n'y a pas en France, c'est juste ça que je, qui est important de signaler, c'est que on a encore ce pas à franchir dans le changement de mindset. Ouais. C'est que la tech arrive dans les cercles de décision qui sont pas forcément le COMEX. Mais que, en tout cas, ça soit prise en compte et qu'elle soit plus comprise.
Et c'est vrai que les GAFAM, enfin, ces 5 boîtes, les 5 mecs qui les ont créées, ils tapaient du code au début. Hein. Mm-hmm. Jeff Bezos, Amazon, PagePlan pour. PagePlan.
Non, Bezos,
il libraire.
Bezos.
Bezos, il y a cette superbe photo de lui en train de taper du code sur un ordinateur.
Je faisais ça à 11 ans aussi. Ça ne veut pas dire que tu es développeur.
T'as fait du code.
Ça c'est pour l'histoire, toi. C'est l'image d'Épinal, toi.
Alors le temps passe. Ce que je propose, c'est peut-être un zoom sur les mindsets qui restent dans cette catégorie. Après, parler peut-être de l'individu, parce qu'on a eu quelques points qui sont remontés dans nos conversations. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va ou tu penses?
Ouais. Enfin, en tout cas, juste pour terminer, juste comme ça, on peut dire que. Pour être une tech company, il faut avoir un système d'information qui est dans ce mindset-là, dans cette manière de fonctionner. C'est-à-dire que on peut pas imaginer qu'un système d'information dans 10 ans ne soit pas cloud, quelque part compatible avec le futur, c'est ça. Il faut que la data soit aussi au cœur des décisions. C'est-à-dire qu'on ne, ces boîtes-là, les objectifs des décisions, elles mesurent beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de la data, c'est pour être capable de mesurer. Et la data, elle est traitée comme un produit. Je dis pas que elle est vendue, mais en tout cas, une data, elle a une certaine valeur dans l'entreprise. Elle est là pour prendre la décision. Elle a un coût de production. Elle a une certaine qualité. Et donc c'est pour ça qu'on travaille la data un peu comme le cycle de vie d'un produit. Elle est produite et comme quelque chose. Et donc du coup, ben comme on produit du matériel, on produit de la donnée et on peut essayer d'arriver à faire des parallèles comme ça. Après, il y a quelque chose qui est important, c'est donc le système d'information. Après, les devices, toutes ces boîtes-là. Enfin, c'est je sais pas si, enfin, vous connaissez naturellement ces boîtes-là, mais typiquement, on peut consommer le système d'information à partir d'un navigateur. Mm-hmm. Et dans le mindset, il y a encore beaucoup de boîtes où c'est pas le cas. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est le fait d'utiliser, alors il y a un acteur qui a sorti un hardware qui est de type navigateur, qui est le Chromebook, mais je dis pas que c'est une obligation d'utiliser le Chromebook pour consommer le système d'information, mais en tout cas, le système d'information doit être compatible avec les Chromebooks. Donc ça, c'est aussi une manière de penser. Et dans il y a aussi cette notion de zéro trust, c'est-à-dire que je dois pouvoir aller sur mon système d'information où je suis. Je suis au café, je dois pouvoir faire les mêmes actes métiers que si je suis sur mon réseau d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on parle de le réseau d'entreprise et Internet. Et c'est aussi un mindset, une manière assez différente de fonctionner. Tout est en fait, une entreprise, elle perd beaucoup de temps dans les files d'attente. C'est-à-dire que il y a des décisions qui sont bloquées parce que des gens doivent les prendre et ils sont pas en mesure de les prendre. C'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un prenne une décision, valide quelque chose, etc. Et donc on est maintenant dans un monde où quelque part on travaille. On doit donner la possibilité de débloquer les files d'attente où que la personne qui doit le faire se trouve. Et donc pour ça, un seul objet, c'est le mobile. Et donc aussi, ton mobile doit pouvoir faire sortir les, déclencher les choses qui font que là où t'es bloquant, tu l'es plus. Donc il y a une partie du système d'information, c'est pas l'intégralité, qui doit être aussi compatible mobile de manière à ce que, à un moment donné, en tant que acteur de la décision, t'es bloquant, bah, il se trouve que pour une raison X ou Y, t'es dans le taxi, tu vas je sais pas où, bah, t'as ta notification qui arrive et tu vas pas dire, bah, ok, il faut que j'arrive au boulot, que je me rebranche sur ma machine pour débloquer la situation. T'es sur ton mobile et donc depuis ton mobile, tu dois pouvoir débloquer cette situation de manière à ce que justement on soit dans la vitesse. C'est que sinon, c'est bloqué. Voilà, il y a un peu tout ça qui arrive. Donc c'est vrai que c'est plein de chantiers autour du système d'information, mais c'est un des gros enjeux. Et après, il y a le mindset. Si on sort de la tech et du système d'information, il y a aussi le mindset. Et donc c'est vrai qu'on retrouve dans ce mindset, par exemple, les valeurs. Donc bon, ça a été, il y a un deck Netflix qui a été vu des millions de fois. Je sais pas si vous l'avez vu, ce deck où Netflix, le patron de Netflix, explique un petit peu comment l'entreprise fonctionne. Donc, il est très connu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le rechercher. Vous pourrez le mettre dans les liens à lire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lu sur qu'est-ce que c'est que la culture Netflix, comment ça fonctionne. Et ils mettent en avant quelque chose qui est important, c'est la liberté et la responsabilité. Donc, on revient à un sujet qu'on a déjà abordé. C'est si je veux réduire les process pour justement pouvoir bouger, il faut que quelque part, bah, je puisse laisser les personnes qui composent l'entreprise honneur de leurs décisions en toute liberté et responsabilité. Donc c'est difficile d'arriver à ce mode de fonctionnement, mais quelque part c'est un plus dans le fonctionnement de l'entreprise. À nouveau, c'est pas tout de dire, bah, ça y est, maintenant je bascule l'entreprise en liberté et responsabilité, ça se fait pas comme ça. Il faut plus le voir comme quelque chose que j'aimerais atteindre. Donc c'est vrai que les entreprises du numérique, elles naissent comme ça. Et là où les entreprises traditionnelles doivent se transformer pour arriver à ça. Donc, en tout cas, voilà. Il y a aussi cette culture et on retrouve ça aussi, cette culture de l'excellence. Et les processus de recrutement, ils sont très exigeants. Donc nous, on le voit à travers les processus de recrutement des ingénieurs. Mais il faut se dire que sur tous les métiers, il y a cette exigence. Il n'y a pas un métier où on se dit, bah tiens, finalement, ce métier, on n'est pas besoin d'avoir l'excellence. Non, c'est tous les métiers, on doit chercher l'excellence dans les gens qui intègrent l'entreprise.
Si, il y en a, mais en gros, c'est externalisé, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent des prestataires.
Et c'est et là même, où on je
voit
pense
les tensions, tu vois, les reviewers de commentaires, je sais plus quel truc, où il y avait eu un peu des débats, est-ce que c'est des gens qui étaient dans l'entreprise ou des gens externalisés. Et en fait, il y avait... Tu vois, parce que c'est difficile, qu'est-ce que ça veut dire d'amener de la valeur pour les gens qui doivent faire 1000 commentaires revus à la, je sais pas quoi, à leur ami.
Mais on se souvient tous des débuts de Google, enfin, pour moi c'était la première boîte il y a 10, 12 ans, 15 ans, qui faisait des entrevues de malades, il y avait même des livres comment se préparer aux entretiens d'embauche de Google, tout le monde bossait ses algorithmes de triabule et de machin et de bidule.
Mais je l'ai fait. Et j'ai acheté le bouquin. Et ça a marché.
Ah oui?
Bah oui.
Ouais, c'est bon. D'accord.
Donc il y a cette culture de l'excellence. Oui.
Enfin, je mettais juste un petit caveat, c'est qu'à un moment, quand ils trouvent la limite, parce qu'ils veulent garder l'excellence, mais quand ils trouvent la limite de ça, je pense qu'ils externalisent.
Ouais, c'est possible. J'avais jamais analysé ça, mais c'est possible. Ouais. Et donc, sur le point que tu as annoncé, par exemple, les commentaires, ils ont quand même aussi cherché à automatiser, avec plus ou moins de succès. Mais il y a aussi ce côté automatisation. Est-ce qu'on n'est pas capable de mécaniser? Non. Bah, du coup, on externalise, je pense. Et t'as raison de préciser. Après, il y a ce sujet, donc c'est, on a vu les valeurs, il y a la culture, et donc c'est vrai que moi j'ai été, enfin, là il y a beaucoup de boîtes, parce que je vois, il y a quelqu'un de Google, Microsoft, je sais pas comment ça se passe chez Red Hat, mais cette notion de pas de secret. Et c'est vrai que la première fois que j'avais entendu parler de Thanks God It's Friday qui se passe le jeudi, je crois maintenant, mais c'est le côté, le CEO, il prend la parole, il va commencer à parler de choses qui sont complètement secrètes et qui doivent pas sortir. Et pourtant, il s'adresse à tous ses salariés.
Ouais. Et ça sort.
Ou pas.
Et ça sort, et c'est effectivement, il parle de moins en moins.
Ouais,
il parle de moins en moins.
Voilà, c'est des choses qui sont déjà sues, s'il le dit.
Ouais, mais enfin, mais de rien.
Historiquement, oui.
Historiquement, c'était le cas, et je pense qu'il y a encore.
Et ça reste vrai qu'aujourd'hui, je peux regarder le code source de n'importe quoi. Ouais,
je pense que c'est plus subtil, pas tant le CEO qui, pour le coup, voilà, est répété, et du coup, il y a l'impact sur la bourse, enfin, il y a des contraintes, hein, que dans le reste de l'organisation où, mais pourquoi ton document, tu l'as réduit à telle équipe, c'est débile. Mais le ouvert à tout le monde et comme ça on se fait pas chier, t'es pas obligé d'aller cliquer dans la notification dont tu parlais. C'est, un, je peux être rapidement te donner l'accès, et le niveau encore mieux, c'est, bah, de toute façon, t'as même pas besoin de me demander.
Oui. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que, en tout cas, il y a une, par rapport à cette notion de propriété de l'information et de d'ownership, on est plutôt dans le côté par défaut. C'est l'ownership est public et éventuellement je le mets en secret, ou dans beaucoup de boîtes c'est la relation inverse, c'est par défaut c'est secret et éventuellement je le rends public. C'est un peu inversé comme ça. La notion du feedback, et c'est vrai qu'aussi ce côté assez culturel de, qui est peut-être très américain, d'abord, enfin, on a tous vécu ah, ta présentation a été super, c'est génial, mais par contre je voudrais te dire ça et ça. Je sais pas si tu as eu cette notion de feedback qui est dans un objectif d'amélioration et qui est très culturel, en tout cas dans ces boîtes là et à nouveau, moi souvent j'étais assez surpris à chaque fois, on me disait ouais, ta présentation était géniale, donc tu te dis ouais, c'est top, puis après ouais, par contre faudrait améliorer ça et ça, et quand t'es pas dans cette culture de feedback, tu te dis mais finalement est-ce qu'il était honnête est-ce que c'était super.
C'est super dur d'accepter quand on dit je veux vos retours, en fait, c'est un travail.
Et chez Microsoft, moi, je suis assez bluffé parce que tu parlais de data tout à l'heure. Chaque semaine, il faut répondre à 5-6 questions sur tout et n'importe quoi. Mm-hmm. Feedback, on demande machin, un pôle sur VS Code, sur Azure, sur machin.
C'est pas chiant.
On demande.
On a la survie fatiguée.
Non, c'est assez rapide. Okay. Mais c'est vrai qu'on est sur tout le monde donne son feedback sur tout, et cette data là. Elle est analysée, structurée, pour améliorer des tas de trucs en interne, des tas de trucs en externe. Je suis assez bluffé. Mm-hmm. On demande le feedback à tout le monde tout le temps, en fait. On prend le pouls de la boîte tout le temps.
Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que j'ai lu, c'est que le feedback, il fallait effectivement le processiser, quelque part. Et donc, dans les, ce qu'il faut, c'est que tu le sollicites. Et pour le fait de le solliciter, ça veut dire que ton retour est le bienvenu quoi qu'il arrive. Et c'est plus facile de mettre en place une culture de feedback dans laquelle tu mécaniquement tu vas dire j'attends ton feedback que le feedback soit spontané. Il y a que quelques personnes qui sont capables de qu'on le courage parce que c'est du courage, qu'on le courage de mettre en place du feedback spontané. Et du coup, pour pallier à ça, ben on a plutôt intérêt à processiser. Entre guillemets, le mot process, faut faire attention à ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, d'institutionnaliser la culture du feedback. Donc, certaines boîtes mettent en place même des moments de 360, comme ça, de manière régulière, où tu récupères du feedback un peu de tout ton environnement.
Petit aparté, juste micro-conseil à des managers ou des gens qui donnent du feedback, c'est que le feedback, c'est pas les choses pour s'améliorer seulement. C'est-à-dire que, c'est important quand on est dans une culture de feedback de dire bah là j'ai bien aimé ça, enfin quand tu as fait ça, moi j'ai trouvé ça bien parce que ceci. Donc, positif, négatif, 50-50, peu importe, mais si on donne que le feedback négatif, ben en fait l'humain, il y a un biais quand même. Ça m'en prend plein la gueule tout le temps, mais en fait je suis pas valorisé, alors que en l'occurrence c'est exactement l'opposé.
Ouais.
C'est important de donner déjà le plus tôt possible et donner le bon et le meilleur.
Et c'est pour ça que dans
les
rétros.
Ainsi les Bud Spencer, tu donnes des claques à tout le monde.
Qu'est-ce que tu regardes comme film?
Bah, c'est il y a longtemps, mais je sais plus, c'est revenu sur la table il y a 3 semaines.
Ouais. Et donc, dans les exercices, dans les rétrospectives agiles, il y en a un que j'aime bien justement pour justement mécaniser ce que tu viens de dire, c'est le Key Drop Start. Ouais. Le keep, drop, start, c'est un exercice agile. Ouais. Et tu commences toujours par dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je continue. Et donc, tu commences toujours par le keep. Parce que c'est vrai que si tu dis on se fait une rétrospective, ben, rapidement on va être sur les drops et les starts, mais on a oublié de dire ce qui était bien. Et ce qui est bien, ben, c'est important de le dire. Donc, c'est pour ça que j'aime bien toujours cet exercice-là. Quand on dit on se fait une rétrospective, keep, drop, start, on commence par l'équipe. Et voilà, c'est bien de se dire d'abord il y a des choses qui fonctionnent et c'est bien de se le dire. Et après il y a des drops, des choses qu'on aimerait voir disparaître. Et après il y a le plan d'action qui sont les starts. Ouais. Et je pense qu'un feedback c'est bien cette notion-là où tu retrouves ces trois axes.
Ouais. Ça c'est peut-être un peu culturel parce que on sait tous les États-Unis par exemple tout est great. Tu vois le restaurant c'est great, le barman est great, tout est great. Enfin où que tu ailles c'est super great tout le temps.
Les tapas hein, mais
great. oui.
C'est ça. Ouais, j'avais oublié ce mot que j'ai du mal à prononcer. Ouais. Donc après dans la culture il y a la notion de progrès. Et donc le progrès pour moi c'est donc il y a souvent les gens parlent de bienveillance et pour moi la bienveillance c'est le service du progrès au sens de c'est on a le droit de faire des erreurs. Ça c'est important culturellement et ce que j'explique souvent c'est que s'interdire le droit à l'erreur c'est s'interdire le droit de progresser.
Oui.
Et donc on doit s'autoriser à faire des erreurs et on doit autoriser son collègue de faire des erreurs et éventuellement les personnes qu'on encadre de faire des erreurs et nos managers de faire des erreurs. Donc c'est vraiment autoriser tout un écosystème à faire des erreurs. Et pour illustrer ça, je dis souvent, donc je sais pas si vous êtes tous skieurs, mais moi j'ai fait beaucoup de ski dans ma jeunesse, mais quelqu'un qui ne veut pas tomber, ne progressera jamais en ski. C'est impossible. Et donc du coup, quelque part, accepter le fait de tomber, c'est entre guillemets, c'est voilà, mais c'est structurellement un acteur de progrès. C'est-à-dire que tu prends des risques. Et pourquoi est-ce que tu tombes? C'est qu'à un moment donné, tu vas faire quelque chose que c'est un geste que tu maîtrises pas et que tu vas apprendre à maîtriser. Et donc, naturellement, tu vas répéter ce geste et petit à petit, tu arriveras à le faire de mieux en mieux. Voilà. Donc, la collaboration dans la culture, on en a parlé déjà. Hein, donc, je vais pas revenir dessus. Après, ce que dans la culture, c'est qu'il faut que tout le monde soit aligné. Donc, et que la vision soit très claire. La vision doit être claire. Après, il y a le chemin qui va être pris pour aller sur cette vision et les différentes étapes qu'on va faire. Donc ça, c'est fait.
Juste un petit point, la collaboration, en fait. Elle demande des gens qui ont cette fibre d'autonomie. Parce qu'en fait, la collaboration, ça veut dire que tu as des sollicitations énormes de partout et il faut que tu aies ton autonomie à toi, être en paix avec tes priorités et de pouvoir dire oui, je participe ou non, je participe pas. Et pareil, c'est pas inné, ça prend et c'est pas simple. C'est intéressant, la collaboration, en fait, elle a un pendant négatif si les gens n'ont pas ces mécanismes pour pas tant se protéger, mais être en paix avec le faire des choses ou pas en faire.
Ouais.
Mais ce qui est perturbant, c'est que Microsoft, ta carrière, elle est sur trois axes, et un des axes, c'est il faut que tu collabores avec d'autres. Ouais. Et c'est vrai que donc on te pousse à collaborer, mais d'un autre côté, comme tu dis, on te pousse aussi à être autonome et puis à dire non, là je collabore pas et là je collabore. Ouais. Mais ça fait partie du plan de carrière. Hein.
Ouais. Et en fait, je vais même plus loin. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais c'est tu es recruté pour tes hard skills et ta carrière c'est tes soft skills.
Oui.
Donc le côté collaborer fait partie des soft skills et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été aussi assez transformant dans ce que si on prend juste notre métier d'ingénieur, c'est vrai qu'avant le super geek qui mangeait qu'on appelle nerd qui mangeait ce qui passait en dessous de la porte et qui était tout seul devant son écran, il était c'était le modèle en fait de et il créait le super code que personne n'osait toucher, c'était ça il y a 30 ans, c'était un peu ça l'image qu'on avait du développeur. Maintenant c'est plus du tout ça, c'est un bon développeur, il a des hard skills mais il a aussi des soft skills et cette capacité justement à être capable d'accepter les remarques, les feedbacks, à collaborer, à partager, et c'est aussi important maintenant d'avoir hard skills et soft skills.
Okay.
Voilà, et puis après, au niveau des people, on a déjà parlé, il y a tout ce sujet processus de recrutement exigeant, bah, c'est au service d'une des valeurs qu'est l'excellence, hein, et donc c'est vrai que c'est vrai pour tous les métiers. Ce qu'on dit aussi, c'est la rémunération, elle est plus liée au talent qu'au budget, et on le voit actuellement sur notre métier qui est en très très forte tension. Et je pense qu'il va y avoir des boîtes qui vont souffrir parce qu'elles n'ont pas les capacités financières pour s'aligner en termes de rémunération sur les valeurs qui sont alignées. Et je pense entre autres, il y a plein de startups qui démarrent et qui sont pas forcément très bien financées et qui doivent recruter des bons ingénieurs pour poursuivre. Et je pense que c'est difficile. Moi, j'ai des copains qui sont CTO de petites startups. Et ils n'ont pas cette capacité à recruter, et quelque part, même s'ils ont une super idée, etc., leur vie, elle est difficile parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, vu qu'actuellement, les niveaux de rémunération sont très élevés, et ils n'arrivent pas à créer suffisamment de valeur pour pouvoir avoir les talents.
C'est bien que tu dis ça, parce que c'est un truc qui m'a... Quand tu avais dit la ressource devient abondante et du coup pas chère, en fait, la ressource informatique, en
numérique,
fait, c'était ça, numérique, c'était ça qui me... qui était un peu de genre, oui, mais en même temps, il reste à avoir des gens pour aller instrumentaliser ça, on appelle les développeurs, et aujourd'hui, ça, c'est pas du tout abondant et pas cher.
Il y a une énorme tension, et c'est même, c'est très pénalisant. Enfin, actuellement, quelque part, il y a, dans le développement de l'économie numérique, il y a des entreprises qui vont avoir du mal à se développer parce que cette ressource, elle est...
Alors que durant le Covid, on s'est dit, ça y est, on télétravaille tous, donc maintenant les boîtes elles pourront aller en Inde, au Bangladesh, en Chine. Ça arrive ou pas? Est-ce que...
On a déjà essayé, quand
même. Ouais, voilà, c'est qu'on en a déjà essayé. Puis moi j'ai, enfin je le vois pas, mais j'ai l'impression que c'était presque un mythe. Peur du Covid qui disait tout le monde part, donc pourquoi pas aller embaucher ailleurs.
En tout cas, chez Sphere, il y a ce phénomène qui est arrivé, qui est nouveau. C'est qu'avant, les ingénieurs étaient plutôt liés, ils travaillaient géographiquement plutôt pour des clients qui étaient dans l'espace géographique. C'est plus le cas. Je dis pas que...
C'est pour ça qu'ils sont ouverts en Belgique, maintenant.
Je dis pas que ça a complètement bouleversé, mais le fait d'avoir quelqu'un qui est à Nantes, qui bosse pour Paris, quelqu'un qui est à Paris, qui bosse pour... Lille, par exemple, je dis pas que c'est courant, mais c'est possible et c'est même souhaitable. Quelque part, ça arrive. C'est plus une contrainte. Et je pense que c'était souhaitable avant, mais nous, dans notre métier du service, il y avait quand même une certaine résistance de la part des clients. Pendant ces 2 ans qu'on vient de vivre, cette résistance, elle a sauté. Je ne sais pas si elle va revenir. Peut-être qu'il y a un moment, on ne sait pas. Enfin, on n'est pas encore, le post-Covid, on n'a pas encore vécu, donc on verra.
Il y a quand même un retour à 2 jours minimum, 3 jours minimum. Il y a des boîtes qui ont encore cette culture du manager qui doit avoir, donc qui sont pas du tout ce que tu as décrit en l'occurrence. Du coup, il y aura peut-être une fracture quelque part ici.
Ouais. En tout cas, pour l'instant, j'ai du mal à prévoir ce qui va se passer, est-ce qu'on va revenir en arrière ou pas. Je pense que ce sera difficile de revenir aux 5 jours par semaine obligatoires en présentiel. C'est pas dire qu'il y aura pas des gens qui auront envie de venir 5 jours par semaine bosser, hein. Moi, j'aime bien venir bosser parce que ça, du point de vue de ma journée, elle est mieux équilibrée et il y a un moment de rupture, il y a une espèce de sas entre la journée de travail et la maison. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'avais l'impression de me lever, de bosser, et puis de me coucher. J'avais finalement pas décroché parce que c'était le même environnement. Donc, moi, j'aime bien, cette espèce de petit sas où ma journée elle est coupée. Donc ça, c'est plus ma manière de le pratiquer. Je comprends aussi qu'il y ait des gens qui arrivent à mieux segmenter ou qui ont un espace de vie qui permet de mieux segmenter, peut-être. Voilà. Mais le 100% présentiel obligatoire, je pense que ce sera difficile.
Et c'est là où on en revient à ce darwinisme numérique. Je pense que, comme tu dis, les boîtes qui s'entêteront en 2022 à dire « tout le monde vient », c'est parce qu'elles n'ont pas compris ce mouvement, quoi. Et elles vont perdre les développeurs, les développeuses, c'est sûr.
Voilà, juste sur notre métier à nous d'ingénieurs, parce que tous les métiers sont pas...
Oui.
Voilà, nous on a une forte tension, et c'est vrai que la boîte qui dit « tous les développeurs reviennent 100% au boulot », vraiment être dans un écosystème géographique où les gens ne peuvent pas faire autrement. Je pense que ce sera dur, Voilà, après, aussi on voit que les boîtes tech, elles ont un très gros pourcentage d'ingénieurs. C'est assez simple à scorer. Comment vous faites pour scorer ça? Ben, vous allez sur LinkedIn, vous prenez une boîte. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. Et donc, vous dites, bah, tiens, je vais chercher tous les gens. Non. Je dis tous les gens qui ont comme compétences Java ou Python ou SQL ou JavaScript. Et donc, en gros, tu cibles la population de développeurs. Et tu dis, bah, et tu filtres par rapport à une entreprise. Et derrière, tu vas voir, donc, tu as d'abord le nombre de salariés. Et après, tu as le nombre de personnes qui ont une compétence de type dev, ingénieur. Et là, ça donne un peu un ratio. Donc, c'est, tu peux dire, le ratio, il est pas parfait. Mais quelque part, on peut imaginer que ce ratio, il reste valable quand tu changes d'entreprise. Quelque part, voilà. Et donc, tu peux dire, bah, je vais scorer une banque traditionnelle avec un Revolut. Et tu vas voir la différence d'ingénieur qui est à l'intérieur.
Intéressant, Revolut et, versus
Paribas. Tu prends Tesla versus Ford, par exemple, ouais. Et tu vas voir aussi où tu prends donc une boîte plutôt qui est considérée comme une tech company, une boîte qui est considérée plutôt comme une entreprise traditionnelle parce qu'elle elle existe depuis un certain temps. Et tu vois qu'il y a une vraie différence dans la répartition des ingénieurs au sens des développeurs dans ces boîtes-là. Donc, et derrière, ben, c'est un marqueur. Et donc, tu te dis, ben, quelque part, si tu veux devenir une tech company, ben, tu dois te rapprocher de ce ratio-là.
Corrélation, causalité.
Biais de confirmation, c'est ça que tu
veux dire. Non, mais je te dis, oui. Non, parce qu'en fait, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Accelerate, qui parle du l'état du DevOps, etc. Et ils expliquent, enfin, j'en suis qu'au début. En fait, je suis très fort à démarrer des bouquins. Donc, ils disent, voilà, on voit clairement trois typologies de boîtes en fonction de ces quatre aspects sur lesquels on mesure. Et on voit, bon, bah, les gens qui sont de plus en plus à la traîne et l'écart augmente. Et on voit qu'il y a des boîtes qui ont augmenté, mais que sur deux dimensions et sur deux, c'est pas augmenté. Et notre hypothèse, c'est que elles essaient de faire de la corrélation, enfin de matcher par corrélation, et qu'en fait, elles n'ont pas vraiment encore compris ou adapté au truc qui est plus fondamental.
Ouais. Ouais. Et après, est-ce que c'est une condition suffisante? C'est peut-être que c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est pas parce que tu peux avoir ton beau ratio d'ingénieur, mais que t'es pas changé ton mindset et que ce sera, tu peux être une entreprise traditionnelle dans ton fonctionnement, parce qu'on a vu qu'il y avait plein d'axes. C'est la liberté, responsabilité, l'excellence. Tu sais, tu peux dire, ben, je recrute plein de développeurs, mais en fait, ils sortent tous de l'école. J'ai rien contre, mais quelque part, ben, ça va pas amener beaucoup de seniorité, ou c'est tous des gens en reconversion. Ben, t'auras ton beau ratio d'ingénieurs, ils ont tous Java, JavaScript, SQL sous le CV, mais ils vont pas amener beaucoup d'expertise et d'efficacité voilà. Donc,
ça,
je suis d'accord avec toi.
C'est le problème de la KPI.
Pardon?
C'est le problème de l'objectif de chiffré mal défini.
Ouais. Voilà. Donc voilà. Et puis après, on disait aussi, ben, cette notion qui rejoint ça, c'est l'axe people. Ben, c'est aussi des structures plates. Et voilà. Enfin, quelque part, ces entreprises pour bouger, ben, il y a besoin en fait que l'information puisse circuler assez facilement. Et puis on voit que le numérique, les outils numériques, ils ont facilité aussi les échanges un peu dans tous les sens. Et quelque part, le manager, ben, qui était souvent un passe-plat d'informations ou des choses comme ça, il y a peut-être moins de sens et moins d'intérêt, parce que pour donner la vision, ben, on peut faire une réunion dans laquelle on rassemble 300 000 personnes tous les 3 mois, alors qu'avant, ben, fallait dire, je disais à quelqu'un, qui disait à quelqu'un, qui disait à quelqu'un, qui disait à quelqu'un. On a moins ce problème de transmission rapide de l'information.
Ah, je suis pas d'accord. Donc c'est vrai, c'est-à-dire que c'est plus plat au sens où au moins le même message est envoyé à tout le monde, mais il y a un besoin de spécialisation du message qui est important pour justement rattraper des gens qui considèrent pas que c'est un peu trop vaporiel, etc. qui est pas facile, hein, qui demande ça demande une énergie assez importante pour le faire spécialiser les objectifs, la vision à mon équipe. Et le deuxième, c'est que, en tout cas, vraiment, on est dans l'abondance d'informations, et qu'à un moment, tout le monde ne peut pas être sur tous les channels, quoi. Et donc, il y a cette notion de, pas se plaindre, mais glorifier, c'est-à-dire la personne qui va être là, filtrer, amener la bonne information au bon moment à l'équipe. Et aujourd'hui, chez nous, ouais, c'est pas mal les managers.
Enfin, l'information du CEO, c'est comme tu dis, c'est quand même des messages très
vision, mais quand après... tu casses les silos, parce que qu'est-ce que fait Microsoft avec ton, tu dois collaborer, c'est ça, c'est genre les silos, en fait, ça marche pas, faut qu'on les casse, et faut qu'on ait, en gros, une boîte, un produit, un méga produit, en fait, qui s'appelle Microsoft. Et ben là, il y a trop d'infos de tous les sens, quoi. Et du coup, comment tu fais, voilà, comment tu transmets cette information,
Mais je suis d'accord avec toi. Et juste parce que j'ai fait un très gros raccourci structure plate, il faut bien voir qu'il y a bien la structure de management et la gouvernance dans le fonctionnement de l'entreprise. Ouais, il faut bien avoir en tête que ta structure managériale,
c'est intéressant de séparer les deux.
Il faut essayer d'avoir gardé en tête ce truc-là, c'est-à-dire que est-ce que tu dis c'est vrai, c'est-à-dire qu'un message il doit être relocalisé. Mais c'est pas forcément, ça passe pas forcément par ta structure managériale, ça passe par ta structure plus de gouvernance et de fonctionnement. Et c'est vrai que Xbox, quelque part, elle a aussi son manager qui a ses propres objectifs et qui va pouvoir réaligner le message d'un Satya pour leur expliquer que ce serait bien que le back-end de la Xbox soit Azure, par exemple, tu vois. Parce qu'on a une boîte de cloud.
Pourquoi vous êtes sur AWS, c'est pas possible.
Mais pareil. Bon, on peut faire peut-être un mot de la fin. Moi, j'aimerais bien que le mot de la fin, ça soit les gens, ils nous écoutent super, mais Didier, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent?
Voilà. Qu'est-ce que je dois faire moi en tant que auditeur hein, qui...
Alors, justement, Didier, on a nos auditrices et nos auditeurs qui sont.
On a Janine au téléphone. Plutôt. On sait bien tout ça.
Plutôt tech, tu vois, qui sont plutôt en France, donc c'est plutôt des pyramides souvent, tu vois. C'est donc eux et elles sont un peu tout en bas. Ils écoutent le podcast, ils disent punaise, c'est super, mais en fait non, c'est terrible, ma boîte elle va disparaître. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois, au quotidien? Demain, ils écoutent ce podcast. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À quelle porte ils tapent? Est-ce qu'il faut qu'ils se barrent comme nous et qu'on a tous bossé pour des boîtes américaines? Ou est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir?
Non, enfin, moi, je suis plutôt de naturel très optimiste d'une manière générale. Et les gens qui me connaissent ou contrairent avec moi, déjà, derrière chaque crise, il y a des opportunités et c'est vraiment ma manière de fonctionner. Donc simplement, on rentre dans un moment de tension. Et ça ouvre aussi plein d'opportunités. Déjà, enfin, pour moi, faut pas être rentré dans la sinistre rose. C'est que je pense qu'il y a encore, rien n'est perdu, il y a plein de choses à faire et il y a plein d'opportunités. Après, si donc là, c'est plus sur le sujet individuel. En tant qu'individu, quelque part, comment je dois me comporter, comment je dois réagir par rapport à ce qui vient d'être décrit. Moi, ce que je dis, déjà, c'est quelque chose que j'ai, que je me suis appliqué moi très tôt et c'est plus le hasard de la vie. C'est quand je suis rentré dans ma première boîte.
L'ecstasy.
Non, mais juste. C'est première boîte. Et j'arrive, c'est genre, je dis première conversation de machine à café, mais c'était peut-être pas le cas. Enfin, en tout cas, c'était arrivé assez tôt dans ma carrière. Et je rencontre un gars qui était assez désespéré. Et qui me dit, en fait, c'est vraiment triste. Moi, ça fait 20 ans que je bosse pour cette boîte-là. Je travaille, donc c'était quelqu'un qui faisait du COBOL, donc c'était on a un certain âge, donc c'était début des années 90, et il dit, quelque part, le COBOL plus d'avenir, et moi, on me dit que maintenant, il faut que je parte. C'est vraiment pas sympa, parce que, quelque part, moi, j'ai rendu plein de services à cette entreprise, et puis j'étais vraiment en train de faire mes missions, et j'ai vraiment bien fait mon job, et maintenant, quelque part, j'ai plus d'employabilité, il a pas utilisé ce terme-là, et on me demande de partir, et c'est pas agréable. Et je me suis retrouvé, quand tu commences et que t'as ce message-là, tu te dis, c'est quand même pas sympa, quoi, l'endroit où je vais. Et là, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est très triste. Mais en même temps, est-ce que, en tant qu'individu, je dois confier mon avenir professionnel à une entreprise? Et en fait, c'est un peu le cœur de ma manière de fonctionner, donc je raconte souvent aux sphériens, aux gens qui nous rejoignent. Je l'ai peut-être jamais exposé publiquement, mais en tout cas, pour moi, son employabilité, ce qui fait qu'on va demain arriver à nourrir sa famille, et ben pour moi, c'est un sujet individuel, c'est pas un sujet d'entreprise. Alors, quand je dis ça, ce qu'on essaye de faire chez Sphère, c'est d'avoir un maximum de choses qui permettent aux gens de garder une bonne employabilité. Déjà, c'est plus moi ma position en tant que dirigeant, notre position avec Bruno, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un écosystème qui fait que tout le monde peut garder une bonne employabilité. Ça, c'est plus ce que l'on fait, nous, dans notre entreprise. Mais après, ça ne veut pas dire que si je suis dans un écosystème qui ne le permet pas, que je dois le subir. Donc, si, quelque part, soit ben, moi, à titre personnel, je continue à garder mon employabilité. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi, pendant des années avant d'être chez Sphère. Ben, le soir, je lisais des choses. C'est ce qui a amené justement la naissance d'Application Server, parce que je lisais beaucoup de choses, je travaillais beaucoup de choses, et on m'a dit, mais pourquoi je ne partagerais pas avec les autres, finalement. Donc, c'est au début 2000, c'est pour ça que j'ai créé le site web. C'était simplement partager toute cette veille, toute cette connaissance que j'acquérais pour que d'autres personnes puissent en profiter et que quelque part, améliorer l'employabilité, c'était un effort plus faible. Et c'est ça, c'est, je contribuais au fait que quelque part, l'écosystème permettait d'avoir une bonne employabilité sans, avec un effort un peu plus faible. Mais si j'étais une personne parmi un réseau de personnes qui avait un peu cette même envie et j'étais pas le super-héros, il y avait plein de gens et il y a encore plein de gens qui font ça. Quelqu'un qui rédige un livre, il est bien. On sait tous que rédiger un livre, vous l'avez tous fait, pas moi.
Vous l'avez tous fait, pas moi. Ouais, c'est vrai, tu vois.
Mais en fait, c'est juste.
Mais t'es CEO, pas nous.
C'est juste un moment de partage. C'est-à-dire qu'on a, on veut partager avec l'écosystème pour que tout le monde profite de ce qu'on, voilà. Donc, ce que je dis, c'est que, un, ben, il faut pas subir. Et deux, il faut bien avoir conscience que tout bouge. Et que c'est important de travailler son employabilité. Et ça, et ben, c'est, le mieux, c'est dans un écosystème qui le permet, mais c'est pas possible pour tout le monde. Et donc, en tout cas, c'est pas parce que c'est pas possible qu'il faut pas le faire. Et donc, faut arriver à se dégager du temps pour arriver à le faire. Le métier d'ingénieur, c'est vraiment difficile. Ce que j'explique aussi souvent, c'est on est dans un métier, quand on a appris à faire le pain, on est boulanger, ou qu'on est pâtissier, ben, une fois qu'on sait faire ça, pendant toute la vie, quelque part, on a acquis un certain nombre de gestes métiers, on les a pour toute la vie, on saura toujours faire du pain, on saura toujours faire des gâteaux, on sera toujours boucher. Développeur, c'est pas ça. Au bout de 5 ans, quelque part, ce qu'on a appris, peut-être que ça n'a plus de valeur au sens de l'employabilité de... Et donc, bah, c'est un métier qui est dur de ce point de vue-là, qui est peut-être parce que il n'est pas garanti. Et il faut tout le temps se remettre en cause. Et les gens qui viennent dans ce métier, je les mets bien en garde. Je dis, tu sais, c'est un métier qui est difficile, au sens où t'es à l'école tout le temps. Et si tu te dis à un moment donné, je maîtrise ce truc-là, peut-être que tu le maîtrises, mais dis-toi que dans 5 ans, en 10 ans, t'es pas sûr que la maîtrise que tu as, elle soit toujours, elle te garantisse une employabilité. Et voilà. Et donc, mon conseil, pour revenir à ça, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est difficile. C'est un monde darwiniste. Et quelque part, eh ben, c'est un écosystème qui est en mouvement. Et si quelqu'un veut rester dans ce métier-là, et c'est pas une obligation, il faut qu'il ait bien conscience que c'est les compétences, il doit les travailler en permanence pour rester à la page.
J'aime bien ce petit mot de la fin.
Ou, donc ce coboliste, eh ben, il va faire un autre métier pendant 25 ans, et il revient en cobol, et là, il est réemployable.
Non, mais j'ai fait ma thèse sur Corba, quand même. Donc, si je m'étais vraiment entêté sur Corba, effectivement, mon employabilité serait...
Mais, parce que je regarde ta truc, ça n'a aucun rapport avec ce que tu dis. T'as un moment, tu mets un point carrière, et je trouve ça super intéressant, tu parles de le contributeur individuel.
Ouais.
Qui est exactement dans ce que tu dis. Il va falloir que tu continues à apprendre des technologies et des choses comme ça. Parce que la boîte, elle veut te garder, fondamentalement. Il n'y a pas de raison qu'elle veuille te... Alors partir, par contre, elle n'a plus besoin de cobol. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a cette partie-là. Mais tu mets aussi manager. Et je pense que c'est, dans ce monde-là, c'est limite encore plus dur pour un manager que d'être autour de sa tech et de maintenir cette expertise. Parce que là, il y a, bon, déjà, le soft skill, c'est compliqué, et ensuite, ça bouge là énormément. On sait pas.
Sur une société en mouvement, enfin, une entreprise.
Là, c'est encore plus anxieux.
Donc, souvent, là, on a vu récemment beaucoup d'entreprises qui ont communiqué sur la notion de chemin de carrière. C'est pour ça que c'est des réflexions qu'on a aussi chez Sphère sur c'est quoi la carrière qu'on est capable d'offrir aux ingénieurs qu'il y a chez Sphère? Quelque part. Donc, il y a un moment donné où il y a des gens qui ont plutôt envie, à un moment donné, d'avoir ce côté. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir un impact en tant que manager au sens de la carrière. Je reviens là-dessus, hein, je parle bien de la carrière. Donc moi, ce que j'ai envie de travailler, c'est plutôt le côté, je vais accompagner, je vais être un coach, aider des gens à progresser. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le manager. Donc, il a un terme, c'est, on peut être TL, donc team leader, au sens de sphère. C'est pas tech lead, c'est, en gros, je vais avoir une équipe de sphériens, de sphériennes, et que je vais aider dans leur carrière. Quand il y a beaucoup de TL, il y a un manager engineering qui va s'occuper de la carrière d'un certain nombre de TL. Après, il y a un directeur engineering et un VP engineering. Ça, c'est la structure managériale. Et c'est une voie, quelque part, dans laquelle on peut être amené à progresser. Donc, on n'est pas TL à temps plein. On a son job d'ingénieur, mais on a aussi du temps pour être manager.
D'accord.
Voilà. Et après, il y a une autre voie où tu dis, ben, moi, j'ai plutôt envie de progresser, sur ce qu'on appelle le T-shape model, c'est-à-dire que je veux devenir vraiment un expert sur un des verticaux. Alors, par exemple, je veux être un expert dans le domaine de la data. Donc là, on est plutôt sur la notion de, moi, mon impact du point de vue du fonctionnement d'entreprise, il sera pas tellement lié à ma capacité à aider les gens à être motivés, à les fédérer, etc., mais plutôt, j'ai un impact direct de par mon expertise. Donc là, on est plus sur les contributeurs individuels, ce qu'on retrouve dans les boîtes américaines sous le nom de staff engineer, senior staff engineer, principal engineer, etc. Et donc là, on va plutôt mettre en avant l'expertise de quelqu'un sur un domaine. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné...
Non, pas sur un... Alors, ouais, c'est intéressant. Attends, bon, je te coupe. Trop tard,
vas-y.
S'il te plaît.
Punaise, on est loin du mot de la fin.
Ouais.
Merci à vous. Bon.
Déjà, nous, on décourage le team lead qui fait aussi... des trucs techniques, on a tendance à essayer, quand quelqu'un essaie d'être manager, lui dit, tu fais 100% ça, et après, éventuellement, tu reviens parce que c'était pas ton truc, mais je sais que chez nous, on essaie de vraiment de séparer le manager du reste. Et l'autre, c'est que quand tu deviens staff engineer, distinguished engineer et tous les noms autour de ça, on te demande pas d'être expert dans ton domaine. On te demande d'avoir justement cette vue c'est très technique, de contribution individuelle sur l'approche technique de la vision que la société demande, tu vois. Parce que tu peux pas être, tu vois, si t'es expert du sous-module USB du noyau Linux, je pense pas que tu sois ingénieur distingué.
Ouais, mais faut revoir ce qu'on entend par T-shaped model. C'est en gros, t'as une verticale et des horizontalités. Ça veut pas dire que t'es t'as qu'une verticale, t'as aussi des horizontalités, et c'est voir jusqu'où va ta verticale et jusqu'où vont tes horizontalités, en fait. Et après, juste pour revenir sur ce que tu disais avant, c'est, je pense qu'il y a un moment donné où tu dois faire un choix entre manager et contributeur individuel, mais au départ, quand ton rôle c'est d'encadrer du point de vue du suivi de la carrière 10 ingénieurs, bah, tu peux à la fois continuer ton métier d'ingénieur, et t'occuper de la carrière de ces personnes. Du point de vue de la carrière, je parle pas du projet, je parle bien de la carrière, c'est pas suivre la carrière de 10 personnes, c'est pas un job à temps plein. Et donc c'est là où il faut faire la différence entre, souvent on va calquer une structure managériale sur une structure opérationnelle, qui peut du coup devenir un job à temps plein. Et donc si tu décorèles ça, t'as bien cette notion, moi ce qui m'intéresse c'est d'aider à faire grandir les gens, mais c'est pas forcément à temps plein, je peux garder mon métier. Alors c'est vrai qu'après, si tu deviens directeur engineering, bah ça devient un temps plein, parce que t'as un râteau de personnes qui fait que à un moment donné, bah ça te prend beaucoup de temps et t'as du mal à garder du temps opérationnel. Donc je dis pas qu'au bout d'un moment, si tu continues dans cette voie-là, tu vas pas perdre ta technicité, mais c'est aussi un choix.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est juste ça. C'est aussi, ça part bien du présupposé que le manager du point de vue de la carrière, n'est pas forcément le responsable opérationnel.
D'accord. Alors, on va faire le vrai mot de la fin. Donc, tu es un optimiste par rapport au darwinisme numérique. Voilà. C'est quoi ton mot de la fin qui amène de l'espoir? Qu'est-ce que ça va amener de top, ce truc-là?
Waouh. Non, mais ce que je veux en dire, c'est que, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est beaucoup d'opportunités pour beaucoup de gens, en fait. Et ce qu'il faut maintenant, ben, c'est y aller.
D'accord. Ça, c'est un mot de la fin.
Merci Didier.
Merci beaucoup Didier. Écoute,
merci Didier pour ces 2h24 et 43 secondes d'enregistrement.
Moi, j'ai même mon Tascam qui a rendu l'âme.
Pour info, on voulait, en fait, en faire,
parler d'un autre sujet, mais bon, on va faire ça un autre jour. Sûrement. Et voilà, merci, merci d'avoir échangé avec nous et surtout d'avoir
accepté. C'est un plaisir. Merci de l'invitation.
Des questions et de.
Ouais. J'espère que le prochain, ce sera pas 8 ans après. Que
Et puis, tous les petits doux, si vous entendez ça, si vous êtes allé jusqu'au bout.
On le coupera peut-être en deux.
On va le couper en deux, c'est sûr. Parce que les gens, ils sont un peu allergiques au, tu vois, un podcast, une heure, deux heures, c'est pas ce Twitch TV de 5 minutes ou le.
Oui, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord avec le fait qu'il faut le segmenter.
Voilà, merci.
Merci. Merci Didier.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.